Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Depuis 1975, le spécialiste de la civilisation arménienne, Jean-Pierre Mahé, qui est aussi membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, s'est rendu à plusieurs reprises dans la région du Caucase et en Arménie plus précisément. Des périodes de terrain plus ou moins longues qui lui ont permis d'approfondir ses recherches. Et depuis ce premier voyage, jusqu'à aujourd'hui, il a pu observer à travers ses nombreux allers-retours les évolutions du pays qui est passé d'un régime communiste à une économie beaucoup plus libérale aujourd'hui. Ces années de terrain ont nourri sa réflexion et ses travaux, dont il a réuni une partie dans un ouvrage monumental. 90 articles rassemblés en deux volumes, publiés en anglais, et il retrace dedans la grande histoire du Caucase à travers plusieurs thématiques comme celle de la langue, de la famille et des dieux. Et dans cet épisode, Jean-Pierre Mahé, vous allez nous raconter les coulisses de vos voyages en Arménie et comment ils vous ont permis de comprendre ce peuple arménien et son caractère profond. Pour débuter, je voulais préciser que vous, Jean-Pierre Mahé, vous êtes licencié de philosophie et de lettres classiques. Vous avez, au début de votre carrière, enseigné notamment la langue latine. Comment vous en êtes venu à vous intéresser à cette région du Caucase ?
Alors, il y avait deux approches, si vous voulez, universitaires vers l'Arménie. Premièrement, je suis agrégé de grammaire, je faisais de l'histoire de la langue, donc je connaissais l'arménien comme langue indo-européenne. Mais il y avait aussi autre chose, c'était la chrétienté. C'est-à-dire que j'étais à Strasbourg, où il y a deux facultés de théologie et des bibliothèques immenses qui ont été laissées en langue allemande. Eh bien, pour décrire la diffusion du christianisme ou la littérature des premiers siècles, les spécialistes allemands ont réuni des dossiers qui ne sont pas seulement grecs et latins, mais qui font appel aux langues orientales, périphériques de l'Empire romain. C'est-à-dire que tout autour de l'Empire romain, il y avait le syriaque, l'éthiopien, le copte, l'arménien, le géorgien, qui ont servi à traduire les premières œuvres de la littérature chrétienne, je veux dire principalement aussi des œuvres antérieures à Constantin, vous voyez, antérieures justement au IVe siècle. Vous savez, les modes en général évoluent dans les centres culturels, c'est-à-dire à Constantinople, c'est-à-dire peut-être à Alexandrie. La mode évolue beaucoup, tandis que dans les périphéries, elle n'évolue pas. Les gens qui ont reçu au IIe siècle, mettons, la traduction d'une œuvre, ils la gardent comme un objet précieux. Et même si ça a évolué, je veux dire, dans la capitale, ils s'en fichent complètement. Et donc, moi, je pensais que du côté de l'arménien, il y avait quelque chose qui était extrêmement important à traduire. Et donc, je voulais partir pour l'Arménie afin de travailler à l'Institut des manuscrits et d'étudier les plus anciennes traductions arméniennes de textes grecs.
Alors, avant de partir en Arménie, vous avez quand même appris l'arménien, notamment à l'INALCO, dont vous sortez diplômé en 75, et c'est cette même année que vous allez vous rendre sur place en Arménie, mais le voyage n'a pas été facile à organiser.
En réalité, si vous voulez, c'était très difficile, parce que à cette époque, c'était la RSS d'Arménie qui tenait l'Arménie, et donc elle était dépendante aussi de l'URSS. Mais il y avait quand même une voie d'accès. C'était la convention culturelle entre le général de Gaulle et l'Union soviétique. Et cette convention prévoyait que 40 personnes pouvaient être envoyées pour enseigner le français dans les différents endroits. Ben, je me suis dit, je dois être envoyé pour enseigner le français à Erevan. Comme ça, je pourrais travailler à l'Institut des manuscrits. Mais comme j'étais à l'époque déjà maître de conférence à l'université, c'était pas normal.
Vous n'avez pas le profil, en fait, pour partir.
Je n'avais pas le profil, j'étais déjà trop avancé, en quelque sorte, dans mon métier. Et donc, on m'avait dit, vous n'irez pas.
Mais quelqu'un vous a aidé à partir.
Quelqu'un m'a aidé à partir, c'est-à-dire, j'ose pas dire les circonstances. Le président Pompidou est mort, le directeur des relations culturelles a changé à la mort du président Pompidou, et le nouveau directeur des relations culturelles m'a proposé de partir alors que j'avais tout à fait renoncé à cette idée. Il m'a dit, non seulement vous partirez, vous, mais vous partirez avec votre épouse et vos trois enfants. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas écrire vos mémoires à votre retour, parce que vous vous rendriez aussitôt insupportable aux autorités soviétiques. Mais moi, je veux que vous gardiez des relations faciles avec les savants que vous rencontrerez là-bas pendant 50 ans. Alors, vous voyez, c'était 75, 2025, les 50 ans sont en train de s'écouler, n'est-ce pas ?
Alors, vous partez avec toute votre famille à l'université d'Erevan en 75, donc université soviétique, hein, comme vous l'avez dit, c'est oui. Le temps de l'Union soviétique. On est au cœur du régime de Brejnev, qui est alors à la tête, lui, de l'URSS. Vous vous retrouvez dans cette ville, Erevan, capitale de l'Arménie, donc en plein milieu des années 70. Quels sont vos premiers souvenirs visuels quand vous débarquez dans la ville ? Qu'est-ce que vous voyez ?
D'abord, le vieil avion Tupolev à hélice qui m'a emmené de Moscou à Yerevan et les chèvres qui broutaient sur l'herbe de l'aéroport, sur la piste d'atterrissage. Vous voyez, il y avait des chèvres qui broutaient.
Hein. En fait, vous vivez une expérience complètement différente.
Complètement différente de ce qu'on voyait à Moscou.
Des corps diplomatiques, de ce qu'eux peuvent voir quand ils arrivent dans des plus grandes villes comme Moscou.
À Moscou, à Saint-Pétersbourg, dans différentes villes importantes, j'ai dit, il y avait des diplomates, il y avait un corpus diplomatique, il y avait des appartements, il y avait des boutiques spéciales, etc. Bien entendu, ça n'existait pas à Yerevan. Nous étions les seuls étrangers des Capstran, des pays capitalistes, autorisés à vivre, et en plus en famille, alors qu'on enseignait dans toutes les écoles qu'il n'y avait pas d'enfants dans les pays capitalistes, parce que le régime était trop peu étouffant, et nous vivions avec nos enfants. Alors au début, on nous a mis au centre de la ville, dans un foyer étudiant qui était très déplaisant, je dirais. Après, j'ai protesté et j'ai réussi à obtenir un appartement, entre guillemets. Parce que c'était 19 mètres carrés, une seule pièce, une toute petite cuisine. Et comme c'était au quatrième étage, il n'y avait pas d'eau dans la journée. Il fallait faire des provisions d'eau dans la baignoire. C'était très difficile. Ça donnait lieu à toutes sortes de protestations de l'ambassade. Et 6 mois après, on m'a donné une pièce de plus dans le même quartier. Mais ce que je veux dire, c'est que je vivais sans barrière sanitaire, de plein pied avec la population. C'est-à-dire que, comme en plus, je refusais de parler russe, d'abord je ne le savais pas, et ensuite, je ne voulais pas l'apprendre, parce que je savais que si je parlais russe, on ne me parlerait pas arménien. Donc je parlais arménien avec les voisins, c'était un peu anormal. Et donc je savais tout ce qu'ils faisaient. Tout ce qu'il faisait, je voyais la vie au quotidien. Le matin, 6 heures, on entendait la cloche des ordures. Il fallait descendre à toute vitesse sur la neige pour courir après le camion et essayer de vider les poubelles. Enfin, des choses inattendues. Mes enfants allaient à l'école du quartier. Ils apprenaient l'arménien. Ils portaient le petit foulard rouge et le portrait de Lénine à la boutonnière. Avant de commencer la classe, ils devaient chanter un cantique au grand-père Lénine et ainsi de suite, qu'ils savaient par cœur. Donc, vous voyez, c'était une immersion totale et que je crois peu d'étrangers ont pu connaître.
Immersion, aventure assez déroutante avec votre famille. Comment, d'ailleurs, une famille française est accueillie par le peuple arménien ? Vous avez tout de suite eu de bonnes relations avec la population ?
Oui, parce qu'il y avait la mémoire du calvaire, on peut dire, des Arméniens. C'est-à-dire, il y avait eu 2 souvenirs traumatisants. Les massacres hamidiens en 1896, et donc le mouvement arménophile en France, avec des gens très importants, comme évidemment Clémenceau, mais Jean Jaurès, Anatole France, qui avaient le souvenir de ces Français éminents qui avaient pris parti pour les Arméniens. Et puis, il y avait aussi le génocide, le départ de certains Arméniens qui étaient parqués dans des camps au Proche-Orient après la guerre, et puis l'épisode héroïque du navire Jeanne d'Arc qui avait secouru les gens de Moussadar.
Il y a quelque chose qui va vous étonner aussi quand vous arrivez en Arménie, à Erevan, vous allez vous rendre compte que la langue que vous aviez apprise à Paris est en réalité très différente de celle qui est parlée couramment dans le pays.
Oui, ce que j'avais appris à Paris, alors c'était d'une part l'arménien occidental qui était autrefois parlé en Turquie et qui, bien entendu, n'était plus parlé en République d'Arménie, n'est-ce pas, à l'époque. Mais c'était surtout une langue arménienne orientale très correcte, très académique, comme on parle à la radio ou au théâtre, dans certaines pièces qui sont strictement en arménien classique. Et dans la rue, dès que je montais dans un taxi, dans un autobus, j'entendais absolument autre chose. Cette autre chose m'était très difficile à capter. Et un jour, je rentre et je vois dans une vitrine un livre scolaire qui était des extraits du premier romancier arménien dont l'œuvre a été publiée en 1848. Alors, c'était un homme, il s'appelle Abovian. Il avait fait des études extrêmement poussées. Il était devenu proviseur du lycée impérial russe à Tbilissi. Et il était absolument désolé de voir que ses élèves, la plupart étant arméniens, ne s'intéressaient absolument pas à leur langue. Parce qu'il n'y avait rien que des livres d'église, des choses ennuyeuses, ce qui était une punition. Et à cette époque, il a, à la suite d'une dépression, il a pris la décision de ne plus jamais ni écrire ni parler autre chose que le dialecte de son village. Et il a écrit, en quelques semaines de fièvre, un magnifique roman historique qui s'appelle « Les blessures de l'Arménie », qui raconte l'arrivée des Russes et la prise d'Erevan par les Russes en 1825. C'est un très, très beau roman et il est entièrement écrit en dialecte. Et alors, j'ai compris que c'était la langue qu'on parlait dans l'autobus, qu'on parlait dans les taxis, partout. J'ai obtenu la faveur d'avoir un maître spécial sur cette langue, qui était la personne chargée d'éditer les œuvres d'Abovian. Donc, il les connaissait très, très bien. Pour moi, il a composé un lexique spécial du vocabulaire d'Abovian. Je connaissais d'autre part une dame qui était peintre de la République et qui m'a dessiné les objets qui étaient dans la maison de son grand-père de façon à me faire comprendre dans quel cadre vivait Abovian. Alors ça, pour moi, ça a été une révolution. Je me suis dit que Abovian était le passage entre les textes arméniens anciens que je pouvais lire à l'Institut des manuscrits et ce que je voyais aujourd'hui. Et que finalement, les textes grecs, c'était des textes grecs, ça ne m'apprenait pas grand-chose sur l'Arménie.
Pour lesquels vous étiez parti à l'origine.
Ça ne m'apprenait pas grand-chose sur l'Arménie, qu'il fallait absolument que j'étudie la littérature arménienne elle-même.
C'est cet auteur, Abovian, qui a changé donc, votre regard sur la langue arménienne. Comment il est perçu par le peuple arménien aujourd'hui? Il est considéré comme l'écrivain, l'auteur, fondateur?
Il a une très grande réputation, mais c'est une réputation, je veux dire, un peu vide, étant donné que très peu de personnes ont pris la peine de le lire et de le comprendre. Alors, je parle de son roman, qui est une œuvre magnifique, mais je parle aussi de son journal intime, qui était écrit dans une langue assez différente, mais que j'ai lu, bien entendu. Et d'une certaine façon, j'aurais presque tendance à dire que le journal intime est aussi intéressant que le roman.
En tout cas, cet auteur vous fait prendre conscience que l'arménien, c'est une langue très ancienne, où l'oralité est très importante.
Voilà. C'est-à-dire que Abovian, par exemple, raconte un repas, c'est le dernier dimanche avant le carême. Alors, on a le droit de manger, n'est-ce pas, à ce repas, puisqu'on doit faire ensuite les 40 jours du carême. Et au cours du repas, les gens boivent et raconte des histoires. C'est-à-dire, c'est un discours entièrement populaire, avec uniquement des fables, des proverbes, alignés les uns aux autres. Et donc, tout à coup, j'ai découvert toute cette somme de traditions orales, de paroles codifiées qui existent et que tout le monde comprend, bien entendu.
En tout cas, cette première expérience in situ, vous l'avez dit, fait évoluer vos sujets d'intérêt pour la région. Vous allez rentrer en France 2 ans plus tard, en 77. Oui. Vous allez continuer d'enseigner l'arménien. Vous revenez aussi avec je crois, beaucoup de livres. Enfin, on vous envoie beaucoup de livres, je crois, près de 3000 volumes. Oui. Et ces livres vont vous faire réfléchir sur l'originalité de cette langue arménienne. Vous poursuivez oui. votre réflexion sur ce sujet.
Je veux dire un tout petit mot des livres, parce que c'est quelque chose d'étonnant. Je veux dire, il était impossible, quand on vivait là-bas, d'acheter des livres en librairie. Parce que, en fait, ces livres étaient destinés à des abonnés qui avaient commandé d'avance le livre. Et moi, j'étais un étranger, j'arrivais, je demandais le livre, on me dit non, il n'est pas disponible, vous ne pouvez pas l'acheter. Alors, finalement, j'ai compris que si je voulais le livre, je devais m'adresser à l'Académie des sciences de la République d'Arménie, qui dispose d'un certain nombre de livres, justement, pour des échanges scientifiques. Et donc, je suis allé à l'Académie des sciences. J'ai passé tous les obstacles pour accéder jusqu'au bureau du directeur de la bibliothèque fondamentale de l'Académie. Et je suis tombé sur un homme extrêmement sympathique, qui avait un tas de choses pittoresques à raconter. Et quand il m'a eu raconté tout ça, il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai dit « Je voudrais quelques livres, je voudrais les acheter. » Il me dit « Acheter des livres ? Mais on va te les donner !» Bon, oui, mais j'ai dit, j'en veux beaucoup. Alors, il me dit, beaucoup ? Donne-moi la liste. Je lui ai dit, je ne connais pas la liste, il faut que je cherche dans votre fichier pour savoir ce que vous avez, le fichier des échanges. Alors, pendant 3 mois, je suis resté tous les jours, je suis venu au fichier des échanges et j'ai commencé à copier des listes. Et finalement, quand j'ai eu 3000 livres, à peu près, je me suis arrêté, j'avais fini le fichier. Et je me suis dit, maintenant, il faut absolument que je trouve moyen d'acheter ça. Et là encore, il m'a dit, mais pas question que tu achètes, on va tout envoyer. Alors à ce moment-là, j'ai écrit au directeur des douanes du Bas-Rhin, à Strasbourg, pour que ça soit accepté. Et j'ai donc reçu, si vous voulez, des témoignages absolument inouïs, parce que ces livres, c'est un trésor d'un monde qui n'existe plus. Je ne pouvais pas savoir que l'URSS allait s'effondrer quelques années plus tard.
Vous les avez tous lus ?
Eh bien, j'ai mis très longtemps à les lire. Je n'ai pas tout lu en entier, mais j'en ai lu beaucoup. Et justement, c'est ces livres qui ont nourri ma réflexion pour la rédaction de ce livre. J'ai commencé donc par des études sur la langue contemporaine, puis des études sur la langue classique, et puis la mythologie, tout le folklore, la littérature. Et la littérature écrite m'est apparue comme imprégnée de littérature orale. Bien sûr.
Alors, vous revenez très fréquemment en Arménie dans les années 80. Vous assistez aussi au démantèlement de l'Union soviétique à la fin de ces années 80, début 90. Il y a aussi, à la même période, un tremblement de terre important qui va se passer en Arménie, en 1988 notamment. Vous n'étiez pas présent sur place à ce moment-là, mais vous connaissez des gens, des amis.
En réalité, je n'ai pas été en Arménie de 89 à 93. Autrement dit, j'ai entendu parler du tremblement de terre, mais je ne suis pas allé sur place. Mais il s'est passé quelque chose d'inattendu. C'est que, à cause d'une émission d'actualité, j'ai dit quelques mots sur les militants du comité Rarabar qui avaient été arrêtés par Gorbatchev et qui étaient d'abord emprisonnés à Yerevan, puis emprisonnés à Moscou avec les dirigeants ouzbeks. Et j'ai dit, il y a eu le génocide, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, et il y a eu cette arrestation des plus grands intellectuels arméniens. 3 fois supprimer l'élite intellectuelle d'un pays, c'est trop. Le pays va mourir si on fait ça. Et je l'ai dit comme ça, à l'émission, on m'a laissé le dire. Ça a été capté par La Voix de l'Amérique. La Voix de l'Amérique à Prague, La Voix de l'Amérique l'a traduit en arménien, et j'ai reçu 10 jours après une lettre. Alors c'était inouï, parce que c'était une lettre qui était signée de personnes qui avaient écrit leur nom, leur adresse, signée et datée, et qui me disait « il faut organiser des réunions publiques de protestation ». Ce que j'ai fait avec l'aide de certains Arméniens qui étaient mes amis, qui passaient leur temps à ça, qui était en rapport avec la Ligue des droits de l'homme, et ça a eu du succès. 6 mois après, les gens ont été libérés. Ils sont venus à Paris, On les a tous reçus dans notre appartement. Enfin, ça a été un moment de joie extraordinaire. Et c'était le début de l'indépendance arménienne.
Et vous avez maintenu de nombreux liens avec ces chercheurs, des chercheurs savants arméniens. Donc, vous l'avez dit, le pays devient indépendant en 91. Et parmi les personnes avec qui vous vous liez d'amitié, Jean-Pierre Maillé, Levon Ter-Petrosyan, j'espère que je prononce bien son nom, un chercheur que vous avez dû côtoyer auparavant, qui est devenu en 91 le premier président de la République d'Arménie. Dans quelles circonstances vous l'aviez rencontré ?
Je l'avais rencontré d'abord, si je puis dire, comme un censeur et un adversaire difficile, parce qu'il était secrétaire du scientifique de l'Institut des manuscrits. Il trouvait que je demandais à avoir trop de manuscrits. Enfin, ça ne s'était pas très bien passé. Puis après, petit à petit, ça s'était arrangé. Parce qu'entre les deux, il y avait eu quelque chose de spécial. Il y avait eu un mariage qui avait eu lieu à la campagne. Il y avait une table de 100 personnes. Et justement, on avait donné la parole, verre à la main, aux 100 personnes autour de la table. Et moi, j'avais parlé dans les derniers. Et j'avais cité tellement de morceaux empruntés d'Abovian que les gens du village en étaient restés stupéfaits. Et le lendemain, ils étaient venus me voir au Matena d'Aran. Ils avaient dit, toi, tu es vraiment intéressé par la langue arménienne. Alors, on va te dire le vrai catalogue de l'Institut. Et ils m'avaient montré un fichier que je n'avais jamais vu. Ils m'avaient ensuite laissé faire tout ce que je voulais. À partir de ce moment-là, j'étais devenu l'ami de tous les dirigeants de cet Institut, donc de Ter-Petrosyan. Et alors, j'avais quand même des raisons spécial, parce que Ter-Petrosyan était un spécialiste des traductions du 5e siècle faites à partir du syriaque. Il avait des idées très importantes sur les chroniques de christianisation. Donc je me suis retrouvé petit à petit un admirateur et un lecteur des travaux de Ter-Petrosyan, et j'ai appris qu'il avait été mis en prison. Évidemment, c'était un des motifs de bouger. Je ne connaissais pas les autres membres du comité, mais lui, je le connaissais.
En tout cas, vous avez gagné la confiance de nombreux Arméniens et prouvé que vous connaissiez profondément, véritablement cette langue, à tel point que vous avez été élu en 90 à l'Académie nationale des sciences d'Arménie. Donc 10 ans avant votre élection ici à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, c'est la première fois qu'un non-arménien est élu dans cette académie ?
Non, il y avait des soviétiques non-arméniens. Mais c'était la première fois qu'un quelqu'un des pays capitalistes non-arménien était élu.
Dans les années 90, vous allez retourner régulièrement en Arménie, enfin en 93 notamment, je crois. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la période précédente marquée par le communisme ? Est-ce que vous avez observé des changements dans les années 90 ?
Oui, mais des changements économiques extrêmement brusques. C'est-à-dire, je ne peux pas passer de 93, si vous voulez, aux années 2000 sans dire quelque chose. En 93, la situation était très impressionnante. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens que j'avais connus en 1975, donc que je connaissais très bien, n'est-ce pas ? Et j'avais tout, quand je les rencontrais, j'étais horrifié. J'avais l'impression qu'ils sortaient d'un camp ou d'une prison, etc. Tellement ils avaient souffert du froid, des restrictions alimentaires, de toutes sortes de choses. Il y en avait d'ailleurs qui étaient morts pendant cette période. Et puis ils étaient si anxieux que les écouter était un travail épuisant, si vous voulez. Et puis, petit à petit, la situation s'est normalisée, l'électricité était rétablie, on a dû rouvrir les centrales nucléaires qui avaient été fermées. Donc la situation s'est peu à peu normalisée. C'était très différent, c'est-à-dire que il y avait plein d'éditeurs privés qui étaient apparus d'un seul coup. Au lieu des hôtels, une touriste, il y avait plein d'hôtels où on mangeait de la cuisine arménienne. Mais il y avait surtout un problème énorme qui était le problème de l'émigration, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui quittaient
la République. Des fuites de cerveau.
Ils avaient demandé à partir depuis des années, mais on leur avait interdit. Puis il y avait, jusqu'en 93, justement, la question du Rarabar. Et donc, il y avait eu une guerre, il y avait eu des... Enfin, c'était très difficile.
La région indépendantiste. Vous, personnellement, sur quoi vous allez travailler durant ces années 90? Vous allez vous rendre sur de nombreux sites archéologiques?
Je me suis rendu sur toutes sortes de sites archéologiques et il y a eu deux points forts. C'est la ville d'Annie.
Et, ancienne capitale.
Oui, mais qui est de l'autre côté de la frontière. Le côté arménien de la frontière, qui est en face d'Annie, en quelque sorte. Alors ça, c'est un thème archéologique. Et de l'autre côté, un thème littéraire, dont je n'ai pas parlé dans le gros livre dont vous avez parlé, qui est l'œuvre de Saint Grégoire de Narek, qui a été un mystique arménien de l'an 1000. J'ai eu à constituer le dossier qui a permis de le nommer docteur de l'Église universelle en 2015. C'est le pape François qui a décidé.
Ça, c'est une histoire assez extraordinaire. On va y revenir. Ça doit être mentionné. La traduction donc, de ces œuvres-là, de Grégoire de Narek. Je ne suis pas certaine que les auditeurs connaissent cet homme. Est-ce que vous pourriez brièvement le décrire? Qui est Grégoire de Narek?
Grégoire de Narek était le fils d'un prince arménien. Il était le cadet de la famille. L'aîné qui devait avoir au moins 10 ans de plus que lui, n'est-ce pas, s'appelait Sahak. Il avait un frère Jean qui devait avoir à peu près 2 ans de plus que lui. Et leur mère est morte très peu de temps après la naissance de Grégoire. À ce moment-là, le père a voulu devenir évêque, renoncer au monde. Il est devenu évêque de sa province. Et il a gardé le fils aîné comme son secrétaire. Il a envoyé les deux enfants dans un monastère au sud du lac de Vent. Un endroit extraordinaire où on voyait l'île du lac de Vent avec la très belle église d'Artamar qui est sur toutes les affiches touristiques pour la Turquie orientale aujourd'hui. Et lui, Grégoire, a eu un maître étonnant. Et c'est ça qui était la circonstance nouvelle, c'est que un savant nommé Tamrazian a redécouvert toutes les œuvres de Grégoire, de l'abbé Anania, qui était le maître de Saint Grégoire. Et l'œuvre de Saint Grégoire était tellement étrange, tellement surprenante, qu'on croyait que c'était une météorite, quelque chose qui était tombé du ciel. Et là, on a retrouvé les œuvres de son professeur et on a compris comment il avait été élevé. Il est probable que le maître Anania disait « Écoutez, vous allez faire une composition arménienne. Imaginez qu'un ange vient d'annoncer que dans une demi-heure, c'est le jugement dernier. Le Christ va arriver, etc. Vous, qu'est-ce que vous faites? Écrivez ça. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez faire? » Alors, il a fait des exercices aussi extravagants que ce que je viens de vous dire pendant des années. Et son maître a reconnu qu'il était un poète exceptionnel. Un poète et un théologien exceptionnel. Alors, il a eu très vite une réputation de saint et d'enfant prodige. Et il s'est défendu contre cette réputation. Il a empêché qu'on publie ses œuvres. Et il est resté, je veux dire, une célébrité jusqu'à la mort de son maître en 991, probablement. Et malheureusement, ou heureusement, à la mort de son maître, c'est son frère aîné qui a été nommé abbé du monastère. Et frère aîné a dit maintenant, il faut tout écrire et il faut tout publier. Et voilà comment ça s'est fait. Et donc, il a écrit un livre sur la confession des péchés, dans lequel il dit, le jugement dernier, c'est beaucoup trop dangereux. De toute façon, Dieu n'a pas l'intention de condamner les gens. Il a dit, je ne veux pas qu'un seul soit perdu. Donc, on va écrire une confession générale de tous les péchés du monde, n'est-ce pas? Mais comme ils sont trop nombreux, il y en a des milliards, n'est-ce pas? On va écrire les péchés principaux, uniquement. Hein. Et tous ceux qui liront sincèrement ce livre auront confessé leurs péchés. Donc, le jour du jugement dernier, on les laissera tranquilles. Et ils entreront au paradis.
Ce Grégoire de Narek a beaucoup compté. Ce moine mystique a marqué la littérature arménienne. Vous, à quel moment vous intervenez? En fait, on vous a demandé de traduire certaines
Alors,
certaines
la chose la plus invraisemblable, c'est que c'est des éditions communistes, liées évidemment à l'Arménie, à la RSS d'Arménie, qui m'ont demandé de travailler là-dessus. À ce moment-là, j'ai été joint par l'Académie des sciences de la RSS d'Arménie. Et on m'a dit, écoutez, si vous acceptez de travailler là-dessus, eh bien sûr, on vous accueillera à l'Institut des manuscrits, à l'Institut de littérature. Vous pourrez revenir tous les ans pour faire votre travail.
du pain personnellement. Béni pour vous.
Bon, j'étais ravi, c'est ce que j'ai fait. Malheureusement, je veux dire, quand j'ai eu fini mon travail, dans le temps indiqué, c'était en 5 ans, hein, pour traduire la totalité de ce livre, ça a été reçu par l'Académie, qui m'a donné un quitus de ma mission, mais les éditions n'avaient plus le financement qui leur aurait permis d'imprimer. Alors, je me suis dit, bon, je mets ça dans un coin. Et pour l'instant, de toute façon, j'ai tout compris, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Et à ce moment-là, j'ai lu toutes les études qui concernaient cet auteur. Et ça a pris un sens nouveau. J'ai publié un livre qui est paru en 2001. Et puis, ce livre a retenu l'attention des évêques arméniens. Et c'est les évêques arméniens qui ont dit qu'il faut proposer le doctorat de Saint Grégoire de Narek.
C'est ce qui a été fait. En 2015, le pape François déclare Grégoire de Narek docteur de l'Église. Alors, un docteur de l'Église, qu'est-ce que c'est? C'est un théologien dont on va reconnaître l'autorité extrême.
C'est ça, dont on va reconnaître, un, la sainteté de sa vie, deux, l'orthodoxie absolue de son enseignement, et trois, on va essayer d'indiquer des théories nouvelles et éclairantes, ou des explications nouvelles et éclairantes. Alors, dans le cas de Saint Grégoire de Narek, le pape a repris, dans son homélie, j'étais présent, il a repris un certain nombre de remarques que j'avais faites sur la théorie de la Sainte Trinité chez Saint Grégoire de Narek.
Et il y en a assez peu, des docteurs de l'Église.
Il y en a peut-être une quarantaine aujourd'hui. Voilà. Il y en a eu beaucoup ces dernières années. Grégoire a été le 36e. Mais ce qui était important, c'est qu'il était et qu'il est seulement le deuxième oriental. C'est-à-dire qu'après Saint Éphrem de Nisibe, qui écrit en syriaque, il y a eu Saint Grégoire de Narek qui écrit en arménien. Tous les autres écrivent
en latin ou en grec.
En latin ou en grec.
En tout cas, ce fut une aventure très marquante au cours de votre parcours. 2025 marque les 50 ans de votre premier voyage en Arménie, qui fut donc en 75. Qu'est-ce que tous ces allers-retours entre Paris et ce terrain en Arménie vous ont appris? Qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui sur l'Arménie?
Je retiens, si vous voulez, ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire un rapport très spécial entre l'écrit et la réalité. La sacralité de l'écrit, la liberté de la tradition orale et le fait qu'un écrivain, aujourd'hui, ne peut pas produire en arménien s'il ne définit pas sa part par rapport à ces deux pôles de la littérature arménienne. J'en déduis aussi que tout ce qu'on m'avait appris à la faculté, d'abord, on m'avait appris qu'il y avait, en quelque sorte, on m'avait donné une idée biologique ou zoologique de la généalogie des langues. C'est-à-dire, on voyait que des types purs. En réalité, il n'existe pas de langue pure. Toute langue, même indo-européenne, fait des emprunts et des entorses majeures en empruntant à des langues de familles différentes. Pas seulement des mots, mais aussi des structures grammaticales. C'est très net que l'arménien moderne a beaucoup emprunté au système grammatical du turc. C'est évident, il y a le vocabulaire est arménien, mais la syntaxe est turque. Et d'autre part, que, vous voyez, j'étais un très grand admirateur, je suis toujours un très grand admirateur de Georges Dumézil. Georges Dumézil a fait une sorte d'histoire de la religion comparée des Indo-Européens et montrée les descendances. En réalité, quand on étudie un pays qui est dans un territoire très, très, très ancien, n'est-ce pas, depuis le 6e millénaire, on s'aperçoit que c'est la mémoire des lieux qui est la plus importante et que la même légende existe en ourite, en ourartien, en perse, en arménien, etc., etc., sans filiation, mais simplement parce que c'est une origine commune sur les lieux. Donc j'ai une idée d'une mythologie en miettes, d'une certaine façon, hybride, transculturelle, et qui vit encore jusqu'à nos jours.
J'avais quelques questions de fin pour avant de conclure, Jean-Pierre May. Aujourd'hui, c'est facile pour un jeune chercheur de se rendre sur place dans la région du Caucase, en Arménie?
Oui, c'est très facile. Oui, c'est très facile. Il y a toutes sortes d'associations qui peuvent l'y aider, toutes sortes de relations à nouer. Il sera très bien accueilli.
Et alors vous, vos expériences sur place vous ont permis de nourrir les nombreux articles publiés dans ces deux grands volumes réunis dans un ouvrage très impressionnant. Pourtant, tout n'y est pas. Est-ce qu'il y aura un prochain volume qui sortira ?
Il y aura, si j'y arrive, hein, parce que c'est autre chose, deux volumes. Un volume, si vous voulez, sur les apocryphes, c'est-à-dire les liens du christianisme arménien avec le judaïsme hellénistique. C'est-à-dire que, en réalité, vous savez, le judaïsme actuel, c'est un judaïsme rabbinique qui a été défini, on peut dire, à la fin du IIe siècle, et qui est très différent de ce qu'était le judaïsme alexandrin. Or, ce judaïsme alexandrin, écrit essentiellement en grec ou dans d'autres langues, eh bien, il a été à la base des christianismes orientaux. Et les Arméniens ont conservé un héritage tout à fait particulier, dont ils servaient pour la catéchèse, qui est les œuvres du grand savant juif Philon d'Alexandrie. Et aussi beaucoup d'apocryphes. Alors, je voudrais revenir spécialement sur cette question. Et puis, je voudrais revenir sur la poésie et sur la sagesse. Donc, il y aura un volume, si vous voulez, du judaïsme alexandrin et un volume sur la poésie et sur la sagesse.
Que nous attendons. Merci beaucoup, Jean-Pierre Maillet, pour ce témoignage. Parce que la recherche, c'est aussi ça, des déplacements, des allers-retours, des terrains qui nous permettent une confrontation au réel nécessaire pour avancer et progresser. Et c'est très précieux et je pense que vos propos, Jean-Pierre Maillet, l'ont assez bien démontré. On va vous retrouver tout de suite pour un second volet d'entretien dans lequel vous reviendrez sur l'histoire de l'Arménie prémoderne. Merci et à bientôt.
Je vous remercie.
Les podcasts de l'Institut de France.